Votre émission sur RMC avec Pluto TV. Plus de 130 chaînes gratuites en streaming. Pluto TV, streamer, c'est gratuit. Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h01 sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, comme tous les jours de la semaine et tous les soirs de la semaine. Et oui, vous en avez l'habitude maintenant, et là on est en milieu de semaine, mais milieu de semaine spéciale, émission spéciale, parce que oui, il va y avoir le multiplex Coupe de France qui va démarrer à 18h15. Nous, on prendra les matchs en direct à 18h30 parce que on a un bon thème, un bon débat à faire sur la première demi-heure. Bien sûr qu'on va parler de cette OM Paris Saint-Germain de ce soir, un classique en Coupe de France. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et ben, c'est pour ce soir, donc on va se mettre dans le bain tout de suite avec déjà Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis ?
Très bien, j'adore la Coupe de France, tout va bien.
Oui, et puis surtout quand il y a des affiches comme ça, parce qu'il y a des belles affiches.
Bien sûr.
On parle de Marseille-Paris, mais il y a aussi un Lyon-Lille par exemple.
Bien sûr, il y a des matchs de club de Ligue 1, il y en a 3 à 18h15, mais il y a aussi Vierzon-Grenoble qu'on suivra avec passion également.
Qui est puni sur ce match?
Personne n'est puni parce que c'est peut-être l'exploit de ses huitièmes de finale à couvrir.
On en a un qui n'est pas puni parce qu'on l'a sorti, bien sûr.
La Coupe de France.
Qui l'a gagné aussi. La Coupe de France. Bravo, c'est Manu Petit.
Bonsoir,
salut
monsieur.
Manu.
Comment ça va?
Ça va?
Très bien.
Bon. Alors ce soir, messieurs, Roten sans flamme donc sur la Coupe de France à 18h15. Coup d'envoi de ces 6 rencontres. Donc entre clubs de Ligue 1, Lyon-Lille, Toulouse-Reims et Angers-Nantes. Et puis Vierzon, le club de N2 qui reçoit Grenoble, Auxerre-Rodez et Paris-FC-Annecy. Tous ces matchs donc en intégralité sur RMC. On va aussi lancer Marseille-PSG, bien sûr, dans une seconde, le match de ce soir. Sachez que Julien Cazard, parce qu'on a évidemment adapté notre émission à la programmation de la Coupe de France, Julien Cazard sera là à 19h pour son Cazard enchaîné. Et puis attention, nouvelle opération exceptionnelle sur RMC. On vous a offert des places pour OM-PSG ce soir. Désormais, on a des places à vous offrir pour PSG-Bayern. Mardi prochain, vous serez peut-être au Parc des Princes pour ce 8e de finale aller de Ligue
Incroyable.
Des Champions. Soyez bien attentifs dès que vous entendrez ça. Eh bien, vous aurez 5 minutes pour envoyer foot par SMS.
Alors là,
au 732.
C'est un sacré cadeau. Hein.
C'est énorme.
Déjà qu'il y a eu un sacré cadeau sur les deux places pour ce soir. Hein. Il y en a eu deux fois, deux jours de suite. Et là, allez-y, hein. Ne ratez pas. Mais par contre, restez bien avec nous parce que ça peut tomber à tout moment.
Exactement, ça peut tomber pendant une intervention, un débat, une pub, un son, un commentaire de match. Donc soyez attentifs du début à la fin de Roten sans flamme. Et vous aurez donc 5 minutes pour envoyer ces 3 SMS nécessaires. Hein. 3 SMS à 75 centimes d'euros pour avoir donc ces deux places et assister à PSG Bayern. Tout de suite, on lance Marseille-PSG.
C'est très important, la concurrence.
Et bah, la frappe et le but pour le Paris Saint-Germain. Le poteau rentrant sur la frappe intérieure pied droit.
Qui est meilleur?
Une fois, deux fois, Unai.
Oh là là, oh quel but. Oh là là.
Magnifique but de Unai.
Qui est meilleur?
La frappe de Messi. Le but.
Je suis meilleur.
Oh, la première occasion des Parisiens.
C'était meilleur.
Le centre de Mbappé Guendouzi. Oh, le but marseillais.
Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Grande soirée sur RMC autour de la Coupe de France. 21h10, coup d'envoi de Marseille-PSG sera au Vélodrome. Jeannot Rességuier, Florent Germain sur place. After jusqu'à minuit, même 1h du matin, puisque la fameuse libre antenne de l'after qui s'est révélée pendant la Coupe du Monde sera là ce soir avec Nico Villas et Thibaut Giangrande jusqu'à 1h du matin. Mais donc sur cette rencontre, messieurs, je voulais vous demander si l'OM était selon vous favori ce soir. Parce que l'OM marche quand même bien en championnat, même s'il y a eu le revers face à Nice ce week-end, parce que le PSG a du mal dans ses prestations, parce que Mbappé ne sera pas là côté parisien, et puis il y aura l'ambiance du Vélodrome. Alors est-ce que tout ça suffit pour dire que l'OM est favori? 32-16 pour débattre. Jérôme, je pense que tu vas dire non.
Oui. Ah ben non, direct. Non, direct. Comment vous pouvez placer Marseille favori aujourd'hui par rapport à ce Paris Saint-Germain-là? Alors je veux bien que les prestations de Paris ne rassurent pas depuis pas mal de temps. Maintenant, on ne peut pas dire non plus qu'en termes de résultats contre des grosses équipes au stade Vélodrome, Marseille a rassuré aussi. Donc, et encore dernièrement, hein, on a vu une équipe se faire accrocher contre Nice, se faire accrocher contre Monaco, et encore contre Monaco.
Ils ont battu Rennes en Coupe de France quand même.
Oui, voilà, un tout petit Rennes en Coupe de France. Et il faut
chaque fois qu'on te dit une victoire, tu minimises le niveau de l'adversaire.
Oui, je minimise par rapport à Rennes. Et à Rennes, sur les équipes qu'ils ont jouées quand ils se sont déplacés dernièrement, je suis désolé, hein, c'est des défaites à Clermont, c'est des défaites défaites à Lorient, c'est des défaites. Tu veux que je te refasse l'histoire de Rennes à l'extérieur? Donc automatiquement, pour moi, Rennes n'est pas,
reste comme
n'est
gros
pas une grosse équipe. Mais les gros matchs, c'est Lens. Alors oui, rappelle-toi du début de saison, du moins de ce match-là. En effet, Marseille mérite pas de perdre, mais ils l'ont perdu ce match. Rennes en coupe, en championnat, parce que tu me parles de Rennes.
Ah, Rennes en championnat, Rennes ça marche, mais pas en
Rennes
coupe.
Rennes en championnat, ben oui, mais Rennes à l'époque en championnat, ils n'y avaient pas des défaites à l'extérieur. Mm-hmm. Au contraire, c'était une équipe régulière et même en Europa League. Donc ils l'ont pas gagné. Ils ont pas gagné contre Monaco. Ils méritaient de perdre. Ils ont fait un match nul. Ils perdent contre Nice. Je suis désolé, c'est quand même des matchs intéressants en termes. Je te parle même pas de la Ligue des Champions, parce que sinon on peut y aller. Mais il y a quelques mois, donc je vais revenir juste là sur les dernières semaines. Oui, Marseille est dans une bonne forme. Marseille est sûr de son jeu. Marseille a un vrai projet de jeu. Moi, je reste persuadé que ce projet de jeu est très ambitieux et trop ambitieux contre les grosses équipes, celles qui sont capables techniquement de te mettre en difficulté. Je parle même pas de physique. Je parle même pas de physique, parce que là-dessus, en effet, Marseille est favori. Physiquement, je suis sûr qu'ils seront meilleurs que les Parisiens. Mais techniquement, non. Excuse-moi de penser que aujourd'hui, le football reste un sport technique. Quand t'es à droite avec tes pieds, eh ben, t'as plus de chances de gagner les matchs. Et, ben, excuse-moi, je compare, ne serait-ce qu'au milieu de terrain ou offensivement, même s'il y a Mbappé qui est pas là et la vitesse peut manquer, en effet, mais Ekitike peut rentrer en cours de match et te la porter. Je suis désolé, mais techniquement, Messi, Neymar, Verratti, je te prends que, même Ruiz, je suis pas sûr qu'il y a l'équivalent en face. Donc c'est pour ça que je pense que Paris est favori.
Manu, t'es d'accord avec Jérôme ?
Non, pas spécialement. Non, je comprends, hein, j'entends tes arguments, Jérôme, mais ils se défendent. Mais ça reste un match à élimination directe, ça reste un match au Vélodrome, c'est une compétition différente. Je pense qu'également Tudor a bien compris aussi, et je pense que les joueurs ont bien compris des carences qu'ils ont laissées ces derniers matchs à domicile. C'était un petit peu porte ouverte, notamment lorsqu'ils arrivent à passer le milieu de terrain. Je pense que la composition ce soir sera différente et que l'attitude sera également différente. Et surtout, Marseille court, et court beaucoup. Ce sont des joueurs qui apportent beaucoup de grinta, d'agressivité. C'est exactement ce que n'aiment pas les Parisiens.
Peut-être après, trop, non, Manu ?
Non, mais après, je comprends tes arguments. Et encore une fois, je les rejoins jusqu'à une certaine mesure parce que on a vu que depuis des années et encore cette saison, les Parisiens souffraient énormément face à une équipe qui était bien structurée. Je pense qu'encore une fois, je suis très curieux de voir la composition qui va débuter ce match-là. Je pense que
normalement, à part les absents du côté marseillais, il va mettre sa meilleure équipe.
Justement, c'est pour ça que je pense que le milieu de terrain sera beaucoup plus équilibré, qu'il y aura moins justement de possibilités pour les joueurs parisiens de pouvoir pénétrer ce milieu de terrain comme ça a été le cas.
Tu penses qu'il est capable de s'adapter par rapport à l'adversaire, alors qu'il l'a jamais fait, Tudor. Il l'a jamais fait en fonction.
Oui, mais là c'est les Parisiens, et puis ça reste un trophée. Donc si jamais ils battent les Parisiens, c'est un petit peu c'est une autoroute derrière qui se profile pour eux pour gagner un trophée.
A priori, pour te répondre sur la compo, ce qu'on voyait Florent Germain hier, notre correspondant à Marseille, c'est en attente de confirmation. C'est Guendouzi un peu plus haut avec Malinovski et Alexis Sanchez devant, Rongier et Veretout au milieu de terrain, Under à droite et Klose à gauche pour les Pistons.
Donc je pense que ça serait beaucoup plus équilibré parce qu'on a vu que sans leur équipe type, notamment sur des gros matchs à domicile, ils ont pris l'eau, notamment le dernier match contre Nice. Et encore une fois, ça reste quand même un match qui peut avoir un impact aussi, même s'ils ont grillé un joker en championnat contre Nice. Il y a le match aussi l'Olympicos qui se profile également prochainement entre les deux équipes, et il sera une nouvelle fois au stade Vélodrome. Donc ça peut être un tir d'essai justement pour éventuellement une répétition. Donc moi, je pense que Tudor et les Marseillais savent très très bien sur quel secteur ils peuvent mettre en difficulté les Parisiens.
Mais tu penses pas que, et on l'a vu, c'est pour ça que je suis un petit peu sur la retenue quand je parle de Marseille sur les gros matchs.
Et puis n'oublie pas le calendrier aussi des Parisiens. Donc
oui, mais alors le
calendrier. Est-ce qu'il y a une gestion qui va? Il ne pourra pas faire une gestion ce soir.
Mais il ne peut pas. De toute façon, il le voit.
Neymar revient de blessure.
Tu le vois dans la composition d'équipe.
Verratti, il va falloir aussi qu'il fasse attention parce que ça sera un stade Vélodrome et un incandescent. Ouais. Donc, dans les contacts, ça va fuser dans tous les sens. Ouais. Dans quelle mesure il va pouvoir garder ses nerfs?
Après, Manu, je suis d'accord. On peut avoir des interrogations.
Et derrière, il y a Monaco samedi, il y a le Bayern qui se profile mardi prochain. Donc,
oui, mais attends,
sachant les difficultés de certains blessés aussi et d'autres qui reviennent de blessure côté parisien, je sais pas ce que va mettre en place Galtier ce soir.
Manu, on a pour nous notre expérience. Je pense que quand tu
enchaîne des matchs comme ça où tu sais que c'est des matchs couperets, que le calendrier est très dur, ça tous les joueurs et le staff et l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ils le savent, oui. Même les supporters. N'empêche que il faut bien commencer cette série, mm-hmm. Elle commence aujourd'hui.
Oui.
Et donc tu vas pas te projeter sur bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à la gestion de samedi en championnat contre Monaco et après
Bayern. Je parle des blessures, parce que ce genre de match ce soir, c'est typique d'un match piège.
Ah oui, non mais ça d'accord, mais les blessures...
Parce que
alors,
ça va envoyer du lourd sur le terrain, je pense,
dans les duels. Mais bon, après, c'est pas la première fois. Dire au stade Vélodrome, c'est pas la première fois que Marseille va mettre de l'engagement, de l'agressivité, dans le bon sens du terme, hein, du moins j'espère en tout cas, pour nous rendre une copie, du moins un match vraiment agréable à regarder. Maintenant, ça fait quand même 12 ans que Marseille n'a pas réussi à battre le PSG au Stade Vélodrome.
On est d'accord, mais les séries sont faites pour être arrêtées à un moment donné.
Oui, mais coup de 12 ans quand même.
Oui, mais là, encore une fois, les Parisiens entament une semaine extrêmement importante pour eux sur différents tableaux. Donc, quelque part, la gestion sera très, très importante. Ce soir, je pense qu'il va mettre sa meilleure équipe, Galtier. Je pense que Tudor, comme tu l'as dit, mettra sa meilleure équipe.
Ouais.
Parce que les deux ont envie de gagner un trophée.
Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je te dis, dans l'engouement de ce match, parce que là, contrairement à d'habitude, des fois, c'est vrai que ça soit en championnat ou même en Coupe de France, et moi je l'ai vécu à l'époque où il y avait des PSG-Marseille par moment ou des Marseille-PSG, il pouvait y avoir de la gestion parce que tu avais une équipe qui était dans le calcul, en effet, en se disant écoute là, on enchaîne les matchs, on va faire tourner ce match-là. Là, il y a quand même un parfum qui est redevenu, grâce à l'Olympique de Marseille, à ce qu'il dégage, qui est redevenu, même les Parisiens, par rapport à ce qu'ils font depuis quelques semaines, où ils se posent des questions aussi, ils savent très bien que quand ils gagnent des matchs à l'arraché contre Angers, contre Strasbourg, ou je sais pas quoi, là, ils se disent, oh, on est un peu dans la difficulté, qu'on a perdu à Lens, qu'on a perdu à Rennes, oui. Donc là, en fait, tout le monde est focus sur ce match.
Oui,
ils sont tous. Donc, moi, je serais déçu vraiment de voir le Paris Saint-Germain, s'incliner contre l'OM.
Ce serait un problème plus profond que juste une question de motivation. Alors.
Ah là oui.
Voilà.
Là on pourrait se poser des questions. Est-ce qu'il y a de la gestion comme tu dis, Manu? Est-ce que là pour moi aujourd'hui il y a plus d'excuses. Il y a pas de gestion.
Je sais, mais encore une fois je pense que Tudor a bien compris les carences qu'il pouvait afficher ces derniers temps contre des gros à domicile.
Ouais.
Et je pense qu'ils vont garder leur état d'esprit, la grinta justement face à un public qui sera le 12e homme. Et derrière je pense que ça sera un groupe beaucoup plus bloc. En phase bloc, justement, pour essayer de contrer les Parisiens, parce qu'ils auront peut-être le monopole du ballon.
C'est possible.
Et c'est pour ça que je pense que le scénario peut être différent.
Déjà, c'est fou.
Oh, c'est le moment, c'est tout
c'est
de
le
suite.
Moment, allez-y.
5 minutes. Vous avez 5 minutes, là, à partir
jusqu'à
de maintenant.
Jusqu'à 18h18.
Et il est bon, Jérôme, en calcul depuis hier.
Oh là là.
5 minutes pour envoyer foot par SMS au 732-16 et peut-être gagner les deux places pour PSG-Bayern mardi prochain, 8e de finale à la Ligue des Champions. 5 minutes donc pour envoyer foot.
3 SMS.
Au 732-16.
3 SMS, c'est 2,25€.
Alors, je précise
pour
que...
Pour deux places, incroyable.
Ça va partir sur les matchs de Coupe de France. 6 rencontres qui débutent dans une poignée de secondes. On est évidemment sur les stades. On retrouvera nos envoyés spéciaux à partir de 18h30, on laisse les matchs s'installer. Évidemment, s'il y a des buts importants, on vous le dira. Et on finit notre débat sur Marseille-PSG. Et après, les matchs en intégralité sur RMC. L'OM est-il favori ce soir? Jérôme, on accueille Benoît au 32-16.
Salut Benoît.
Bonsoir à tous.
Bienvenue Benoît, tu nous appelles d'où Benoît?
Merci. De Brive, en Corrèze.
D'accord, bon, supporter parisien, supporter marseillais?
Marseillais.
D'accord. Bon, bah écoute, tu vas nous donner un peu ton état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que t'attends?
Est-ce que l'OM est favori?
Est-ce que l'OM, ouais, comme dit Jean-Louis, est-ce que l'OM pour toi est favori?
Alors, pour répondre à la question, pour moi, l'OM n'est pas favori. Malgré qu'on puisse dire que c'est le moment ou jamais, dans l'ensemble, les confrontations PSG-Marseille de ces dernières années, on n'a jamais réussi à faire vraiment un bon résultat, puisque en termes de victoire, c'est famélique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même pas comparer les deux effectifs. Après, il y a la dynamique, certes, mais clairement, aujourd'hui, je pense pas que l'OM soit favori. Je pense que ça reste un très bon outsider et ça sera une excellente répétition pour le PSG, pour le Bayern, pour mardi prochain. Mais concrètement, pour moi, non, nous ne sommes pas favoris.
Tu les vois pas gagner le match ce soir, alors?
Moi, je les vois pas gagner à la base, clairement. Je vais regarder le match parce que, bien sûr, ça reste un match de coupe. Mmh. Je veux aussi voir un peu ce que peut donner l'état d'esprit Tudor, justement sur un match à élimination directe un peu plus lourd, puisqu'en Ligue des Champions, c'était des matchs de poule, même s'il y avait une élimination à la clé.
Ouais, c'est vrai.
Je suis curieux de voir comment cette équipe, justement, va évoluer dans une configuration match couperet contre une équipe plus forte. Je suis assez curieux de voir ça.
Ouais, ouais, ben moi aussi. Franchement, je suis assez curieux de voir. Alors, je l'attends depuis un certain temps. Là, j'ai vu, il y a un élément de réponse, c'est que pour moi, il fait pas de différence entre un petit club et un gros club qui se déplace au Stade Vélodrome. Mmh. Pour l'instant, c'est pas bénéfique pour lui. Je trouve qu'il y a des manques, en effet, contre les grosses équipes. Peut-être que, comme tu dis, Manu, il va se servir de la petite claque reçue contre Monaco, de la grosse claque reçue contre Nice, et essayer d'adapter un peu son système, ouais. Quoi.
Moi, j'ai un peu peur.
Ouais.
Sincèrement, j'ai un petit peu peur parce que, alors certes, le PSG va arriver diminué, et puis on connaît les carences du PSG aussi, donc on sait qu'il y a clairement des équipes qui ont mis des choses très simples en place pour contrer le jeu, et notamment le manque de repli défensif des attaquants du PSG. On a les moyens de contrer ça. Maintenant, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Dans les confrontations PSG-Marseille, à chaque fois qu'on a perdu, même sur le rasoir, sur le fil, il faut quand même être réaliste. Systématiquement, c'est des erreurs à nous qui ne nous avons pas permis de remporter le match. Donc, c'est pour ça que je suis quand même très attentiste d'un résultat ce soir. Moi, franchement, j'espère un résultat, mais je les vois pas favoris.
Est-ce que tu serais déçu de voir un OM s'incliner, pas largement, mais s'incliner sans forcément montrer des forces?
Sincèrement, oui, je serais très déçu parce que malgré tout, l'optique du club, faut pas l'oublier, hein, faut bien rappeler le prisme dans lequel se trouve le club. Le club, son optique, c'est de progresser d'année en année, d'une part en championnat, mais aussi pour les Ligues des Champions. Or, si derrière, on commence pas d'ailleurs à créer ce genre de répétition avec un entraîneur, avec des matchs à élimination directe, oui, concrètement, je serais vraiment déçu que ce soir, on fasse pas tout pour aller chercher un résultat, clairement.
Et la compo, elle te plaît, Benoît, de voir Guendouzi comme ça, un peu plus haut, ou t'aurais aimé un truc un peu plus offensif?
Alors moi, très honnêtement, Guendouzi un peu plus haut, je pense qu'il est pas à l'aise dans ce rôle-là. Et ça me fait quand même un petit peu peur. J'aurais préféré peut-être voir plutôt un Sanchez un peu en retrait d'un Vitinha, par exemple. Alors certes, vous allez me dire, il arrive juste, c'est difficile de le jeter dans un match comme ça. Mais je pense que ça serait clairement une configuration beaucoup plus intéressante à observer.
Ouais, je pense que c'était une réflexion qu'il avait. Le problème, c'est que la première sortie de Vitinha était compliquée contre Nice. Mmh. Et donc là, le relancer encore quelques jours après sur un classique, ça me paraît compliqué.
Rendez-vous à peu près dans une heure pour avoir les compos des une heure ou deux.
Dedans,
merci Benoît d'être venu au 32-16. Vous avez encore 30 secondes. 30 secondes, dernier appel pour envoyer foot par SMS au 7-32-16 et gagner vos places pour PSG Bayern. C'est encore possible, mais il faut envoyer tout de suite foot au 7-32-16. Côté PSG, Jérôme, est-ce que selon toi, tu seras plus avancé en vue du Bayern ce soir? Ou est-ce que les contextes n'ont rien à voir, ce seront des adversaires différents, etc.?
Les contextes, oui, ça n'a rien à voir, parce que Ligue des Champions, c'est pas un match couperet, c'est sur deux matchs, donc tu es automatiquement un petit peu dans le calcul par rapport aux résultats et en perspective du match retour. Mais où il y aura, j'ai des interrogations sur ce PSG là, mais moi je pense que ce contexte là va servir pour voir des individualités fortes. Aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que le PSG collectivement allait être en difficulté contre beaucoup d'équipes.
Il concède quand même beaucoup d'occasions par match.
C'est vrai. N'empêche que j'espère voir au moins une bonne figure des individualités. Du moins, ce groupe a été construit comme ça. Donc, j'espère voir un bon Messi, j'espère voir un grand Neymar, parce que je trouve qu'il a un rôle très important sur ce match-là, même s'il revient de blessure. Et puis, surtout, un bon Verratti au milieu de terrain.
C'est surtout là où on a des certitudes côté PSG, c'est que les individualités répondent présent. Et c'est d'ailleurs elles, à l'heure actuelle, qui sauvent justement les contenus un peu médiocres et très moyens.
Sauf que ta meilleure, elle n'est pas là. Aujourd'hui.
Oui, mais justement, moi je reste persuadé que Tudor a appris et les joueurs ont appris. Quand je vois la communication de certains joueurs ces derniers jours sur le match de Nice, je pense que il y a un rééquilibrage aujourd'hui sur le plan tactique. Et si jamais ils arrivent à faire un bon match sur le plan tactique, ils peuvent mettre en grande difficulté les Parisiens.
Je suis d'accord avec toi.
Ça va se jouer là. Oui. Ouais,
exactement.
Ça, c'est sûr.
Mais bon, pour répondre à ta question, Jean-Louis, forcément, il y aura quelques réponses après ce match-là. Si Paris passe complètement à côté. Je vais peut-être commencer un petit peu à m'inquiéter.
Surtout que s'il passe à côté du match ce soir, il y a le match de Monaco qui arrive samedi à 17h et derrière il y a le Bayern.
Mais après ça peut.
Psychologiquement.
Et puis t'es sorti d'une compétition qui tient à cœur au Paris Saint-Germain. Mmh. C'est le recordman de nombre de victoires en Coupe de France. Je pense pas que les Parisiens.
La pression, elle est quand même davantage sur les Parisiens que c'est sur les Marseillais ce soir. On est d'accord.
C'est vrai, c'est vrai.
Et comment vous voyez les choses sur l'absence de Mbappé? C'est l'autre question aussi, hein. Parce que ça va être le premier gros match sans lui. Comment justement justement régler ses problèmes
de profondeur. Parce que sur le plan tactique, pour les adversaires, tu défends pas de la même manière quand t'as Mbappé en face de toi que quand t'as Neymar et Messi, parce que tu sais qu'ils vont jouer dans les petits espaces, Neymar et Messi, qui vont rarement prendre la profondeur, quasiment jamais, et que c'est plus sur le domaine technique qu'ils vont vouloir te dominer. Tandis que Mbappé t'impose un duel physique et tu sais que t'es toujours sur la balance entre savoir est-ce que tu peux avoir un bloc haut ou un bloc bas. Donc il faut toujours être très attentif sur le plan tactique quand t'as Mbappé en face de toi.
Après, il y a un réajustement et c'est là toutes les qualités de Galtier aussi, je pense. Il va se rendre compte que s'il joue avec Neymar et Messi devant, il aura moins de vitesse, ça c'est sûr, de percussion même avec des courses, et que la vitesse va venir des joueurs de côté. Et que là, tu peux transformer un petit peu son système en libérant Hakimi. On l'a vu dernièrement, Hakimi, il apporte beaucoup offensivement avec sa vitesse. De l'autre côté, Nuno Mendes aussi, il va très vite. Ça peut être aussi ça, les déclencheurs en termes de vitesse sur les côtés. Et puis, attends, j'en ai parlé dans les paris tout à l'heure, mais on l'a enterré, et je pense... un petit peu à juste titre, parce qu'il donne pas satisfaction aujourd'hui, c'est Ekitike, mais qui va super vite. On voit pas sa vitesse pour l'instant au PSG, mais sur un match comme ça, avec une équipe de Marseille qui joue,
qu'il est un petit peu à l'extérieur, comme tous les avancantes qui se sont succédés justement à la pointe de l'attaque.
Tu sais, ce stade Vélodrome avec ce contexte-là, et puis surtout le plan de Tudor où il prend beaucoup de risques quand même sans le ballon dans le pressing, ça libère beaucoup d'espace. Et là, Ekitike, il devra en trouver s'il joue. Et lui peut apporter, je pense, du danger dans la défense marseillaise.
Rendez-vous 21h10 donc pour ce Marseille PSG. On saura tout ce soir, le match en intérieur. Intégralité donc sur RMC dans l'After Live. Le direct, c'est la Coupe de France donc depuis quelques minutes. 6 huitièmes de finale ont débuté. Il y a eu 2 buts inscrits. On va d'abord là où il y a une surprise qui peut-être se profile, c'est entre Auxerre et Rodez. Fred Joly, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut Fred.
Salut tout le monde. Effectivement, 3 minutes de jeu auront suffi aux Ruthénois pour prendre l'avantage sur le premier corner de cette rencontre, tiré par Park à la retombée. Mendes qui peut pousser le ballon dans le but de Léon ce soir, titulaire dans les auxerroise, et ainsi Rodez mène après 8 minutes de jeu 1-0 sur la pelouse de la Baie des Champs.
L'autre but, il est entre clubs de Ligue 1 Angers-Nantes. Pierre-Yves Leroux, bonsoir.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme. Ça serait pas une surprise alors ici, une victoire d'Angers?
C'est pas encore un club de Ligue 2.
Mais en tout cas, ils sont bien partis puisqu'ils mènent 1-0 après 6 minutes grâce à Sima. En 6 minutes, il y a eu 6 tirs pour Angers. Vous imaginez un peu, aucun pour Nantes. Donc ils sont partis à fond.
Alors l'ouverture du score à Lyon, mais malheureusement la ligne n'est pas dingue, Jérémy Donzé.
L'ouverture du score, le but de Ryan Cherki ici.
On a compris, but de Cherki, 1-0 pour Lyon, on va te rappeler après 8 minutes. Donc Lyon mène 1-0 face à Lille. L'affiche de ces matchs de 18h15 est bien lancée. On va revenir dans une seconde, faire un point sur toutes ces rencontres. 0-0 entre Toulouse et Reims, 0-0 entre Vierzon, club de N2, et Grenoble, 0-0 entre le Paris FC et Annecy. 3 buts inscrits pour l'instant, on revient sur les terrains dans une seconde.
Oh, contrôle.
Roten sans flamme, spéciale Coupe de France, à tout de suite.
RMC 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme, bien sûr. On commence la deuxième demi-heure d'un Roten sans flamme exceptionnel, parce que là, oui, on a fait un débat et un bon thème sur l'OM Paris Saint-Germain ce soir. Mais maintenant, c'est le multiplex Coupe de France. Les matchs vont démarrer à 18h15. Il y a déjà des buts. On est avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et bien sûr avec tous nos correspondants sur les stades.
Exactement, on s'est adapté à la programmation des matchs de 8e de finale de la Coupe de France, donc pas de faites entrer l'accusé. Vous pourrez podcaster les précédents si ça vous plaît, mais place au match, place au direct. 3 buts inscrits pour l'instant. Angers mène 1-0 face à Nantes, Lyon mène 1-0 face à Lille, Rodez mène 1-0 à Auxerre. On va aller là où il n'y a pas eu de but encore pour l'instant, notamment sur Toulouse-Reims avec Nicolas Paul Orsi. Salut Nico.
Salut les gars, salut à toutes et à tous. C'est parti depuis 14 minutes bientôt au Stadium, 0-0 entre le TFC et Reims. Les Rémois qui sur une série incroyable, ils n'ont plus perdu depuis fin septembre, 14 matchs consécutifs sans défaite pour les joueurs de Will Steel face à des Toulousains qui sont eux aussi dans une bonne dynamique malgré la défaite contre Paris le week-end dernier. Et globalement, ça joue plutôt bien au foot, même s'il y a toujours 0-0. Une occasion côté Rémois, une frappe de loin de Balogun, le meilleur buteur de Ligue 1, sorti par Kjetil Haug, le gardien toulousain. Attention à ce ballon sur le côté gauche, il va peut-être revenir dans la surface de réparation. Finalement, ça va être sorti par la défense rémoise. 0-0.
La belle histoire. Peut-être, ce sera Vierzon à la fin du match. Vierzon, club de N2 qui reçoit Grenoble sous les yeux de Valentin Germain. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le quart d'heure de jeu ici à Vierzon est 0-0 pour le moment entre donc Vierzon, petit poussé, dernier club amateur en lice National 2, hein, c'est la 4ème division. Ils sont d'ailleurs derniers de leur poule, les joueurs de Vierzon. Et en face, c'est Grenoble, club de haut de tableau de Ligue 2, donc pour l'instant 0-0. Grenoble a mis le pied sur le ballon, mais les meilleures situations, elles sont pour Vierzon, avec notamment une tête juste à côté sur corner en tout début de match ici. Donc on est au stade de Vierzon, le match n'a pas été délocalisé, 1998 places, c'est à guichet fermé, mais seulement 500 places en tribune, ça veut dire que la majorité des supporters sont derrière la rambarde, comme un match de district magnifique. Dimanche, c'est fort sympathique. C'est l'esprit Coupe de France et pour l'instant, Vierzon fait le travail. 16 minutes de jeu 0-0.
Paris FC, club de Ligue 2 face à Annecy, Ligue 2 avec Timothée Mémon. Salut Timothée.
Salut à tous, toujours 0-0 au stade Charletti pour le moment. Dans une ambiance plutôt morne comme d'habitude à Charletti, avec deux équipes qui vont tenter leur chance, qui sont dans le ventre mou de la Ligue 2 et qui finalement pourraient s'offrir un beau parcours en Coupe de France. Mais pour le moment 0-0 entre une équipe du PFC qui a plutôt aligné ses titulaires et une équipe d'Annecy qui a fait tourner.
Merci Timothée. L'affiche entre matchs de Ligue 1, c'est donc Lyon-Lille et pour l'instant avantage lyonnais, Jérémy Donzé.
Oui, après 16 minutes de jeu, toujours
Jérémy,
ce
va falloir te rappeler de nouveau parce que la ligne s'est de nouveau dégradée. Ouais. En attendant, on va aller à Angers où il y a eu un but également pour Angers face à Nantes, Pierre-Yves.
C'est pas sa voix normale en fait. Peut-être pas de réglage possible. 16 minutes, 1-0 en faveur des Angevins qui ont démarré tambour battant cette rencontre avec donc ce premier but inscrit au bout de 6 minutes par Sima. Corner à venir. Ils réagissent évidemment, les Nantais, parce qu'ils ont totalement manqué leur début de rencontre. Corner à l'instant qui est frappé de la gauche vers la droite par Mollet, alors qu'on rappelle que les Angevins ont mis fin à leur série terrible de défaites 13 consécutives en championnat avec ce match nul face à Lorient, et qu'aujourd'hui ils peuvent jouer un petit peu détendu parce qu'il n'y a pas de points à aller chercher, juste à se faire plaisir dans cette compétition face aux tenants du titre. Le corner n'a rien donné, 1-0 pour Angers après 17 minutes.
Alors il y a un corner à Lyon pour Lille, on va retenter notre chance avec Jérémy Donzé dans une seconde, donc, puisqu'il est de retour, Jérémy.
Bien sûr.
En attendant, on va à Auxerre, Rodez, Fred Joly.
17 minutes de jeu, et Rodez a pris l'avantage après seulement 3 minutes grâce à Mendes, le 19e de Ligue 1 qui accueille le 19e de Ligue 2, avec une équipe de Rodez qui surprend un peu cette Coupe de France. Ils ont sorti Saint-Etienne, ils ont sorti Monaco, puis se sont qualifiés face à Grasse, alors que Niort s'est débarrassé lors du tour précédent de. Auxerre s'est débarrassé de Niort lors du tour précédent en 16e, sur le score de 4-0. Et les Auxerrois qui ont eu une double occasion, une tête de Niort qui a terminé sur le poteau, a suivi une reprise de volée, demi-volée d'Autrette qui elle a été sortie du cadre par Sibois. Les Auxerrois sont menés 1-0, mais les Auxerrois semblent avoir pris vraiment ce match à leur compte et ils dominent cette rencontre pour l'instant après 18 minutes de jeu, même s'ils sont menés 1-0.
Jérôme, le but de Cherki t'a plu sur Lyon-Lille?
C'est surtout que je lui souhaite d'enchaîner. Il enchaîne les titularisations, mais là ça fait deux buts en deux matchs avec un très joli but contre Troyes. Là, le contrôle de la casette est fantastique au départ.
Sublime.
Ouais.
Sublime.
Et puis, par contre, la finition, il est quand même très habile des deux pieds. On le voit dans la conduite de balle. Et puis derrière, il met une frappe pied droit, qui est son mauvais pied. Donc, beau but pour lui. Il est en train de confirmer tout le bien que je pense de lui.
Alors, mon corner n'a rien donné tout à l'heure pour Lille, mais il y en a un deuxième. Tout de suite, Jérémy Donzé, Lyon-Lille.
Et corner à Lyon cette fois-ci. 18e minute. Et donc, ce score d'un but à 0, but de Ryan Cherki à la 8e. Corner pour les Lillois, tenter de réagir pour les hommes de Paulo Fonseca, pris à la gorge dans ce début de match, cette ouverture du score de Ryan Cherki, déjà buteur samedi face à 3. Le corner de Rémi Cabella, la combinaison, c'est joué à terre. Le contre, attention à suivre côté lyonnais, avec notamment Ryan Cherki à grandes enjambées. Le retour d'André Gomes, Ryan Cherki qui revient sur son pied droit, qui écarte là-bas sur le côté droit avec Johan Le Penant. Il y a une faute d'Alexandre Lacazette sur Timothy Weah notamment. Alexandre, attention, c'est en train de s'échauffer avec Thiago Diallo et Alexandre Lacazette. Quentin Tolisso qui vient s'en mêler sous les sifflets du Groupama Stadium. Toujours ce score donc d'un but à zéro pour les Lyonnais, à 19e ici au Groupama Stadium, et donc cette ouverture du score précoce de Ryan Cherki.
Autre match entre clubs de Ligue 1, Toulouse-Reims, Nicolas Paolorsi.
La 19e, toujours 0-0 entre Toulouse et Reims, mais il y a du rythme dans ce match. Ballon pour les Toulousains avec Anthony Rouault qui va essayer de relancer court. Techniquement, c'est plutôt propre ce que proposent les Toulousains et les Rémois. Récupération haute du stade de Reims avec Lopi qui va écarter le jeu sur la droite. Pas de grosses occasions, mais les Rémois qui sont peut-être ceux qui ont le plus de situations, même si tout à l'heure Farès Chaibi s'est essayé sur une frappe lointaine à 30 mètres qui est passée au-dessus du but de Yevan Diouf. 0-0, 19 minutes de jeu.
On va à Vierzon, Jérôme.
Ah oui.
Vierzon, allez, viens, le club Jérôme. De N2 qui reçoit Grenoble. Ligue 2, Valentin Jamin.
20e minute de jeu et toujours ce score de 0-0. Grenoble qui est en train petit à petit là de prendre clairement l'ascendant, notamment en termes de possession. On a du mal vraiment à déborder la défense à 5 mise en place par Vierzon, mais c'est dur. Déjà pour les joueurs du Cher, Grenoble qui n'est qu'à 3 points en Ligue 2 du top 2, hein, qui offre un ticket pour la Ligue 1. Donc il y a aussi quelque chose d'intéressant à jouer en championnat pour Grenoble qui reste sur 3 victoires en 4 matchs en Ligue 2. Donc on a un petit peu fait tourner quand même, notamment derrière où Loïc Nestor et Loïs Nery jouent. Ils jouent assez peu en championnat, mais pour l'instant ils font vraiment le travail en termes en tout cas d'implication, les Grenoblois, sans marquer pour autant. Donc 0-0, 20e minute de jeu.
Auxerre Rodez, Fred Joly.
La 20e, Rodez mène à 0. Le corner pour Auxerre, tiré par Saki. Une tête auxerrois. Non, il y avait Nyang finalement, retraite, qui tente de loin. Oh, c'était cadré. C'était pas loin du poteau droit de Cibois, qui restait bien concentré, qui s'est couché et a capté cette balle. On vous le disait, les Auxerrois dominent vraiment cette rencontre, même s'ils ont été un petit peu surpris, cette ouverture du score très rapide dès la 3e par Mendes. Rodez mène à 0.
On va dans le chaudron, messieurs. Le chaudron de Charletti. Paris FC.
Non, mais c'est quoi cette pelouse?
À la pelouse, oui.
Quelle horreur.
Annecy, Timothée Mémon.
La pelouse totalement indigne, très clairement, avec notamment tout le côté gauche pour les joueurs d'Annecy qui est littéralement détruit par les différents matchs qui se sont écoulés. Une pelouse horrible, véritablement, pour ce stade qui dont la concession est à la ville de Paris. 21 minutes de jeu, 0-0 pour le moment entre Annecy et le Paris FC. Mais c'est-on les Annecyens qui sont en train de dominer, qui se sont procurés une double occasion tout à l'heure par Alexis Bossetti, les joueurs de Paris.
Alexandre Lacazette, le deuxième, l'énorme erreur lilloise sur cette relance. Alexandre Lacazette, opportuniste, qui vient fusiller Lucas Chevalier. Ça fait 2-0, énorme erreur de la défense lilloise, énorme erreur de relance. Et donc Lyon qui fait déjà le break après 20 minutes de jeu. Donc Alexandre Lacazette pour son 300e match sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Il revient à 3 longueurs de Bernard Lacombe, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. 2-0 donc pour Lyon face à Lille.
Ah là, il me semble que c'est le jeune Yoro qui attaque pas son ballon.
Ouais, c'est André Gomez. Ouais, exactement. C'est André Gomez qui fait cette passe et le jeune Lenny Yoro, déjà fautif samedi face à Rennes, exact. Après 26 secondes de jeu devant Amine Gouiri. Cette fois, c'est devant Alexandre Lacazette. Et s'il attaque son ballon, effectivement, Manu Jérôme, ça ne se produit pas, ce but d'Alexandre Lacazette. Son 17e cette saison, son 4e dans cette Coupe de France, lui qui avait marqué un triplé au tour précédent face à l'équipe de Chambéry, pensionnaire National 3. 2-0 donc pour Lyon qui fait déjà le
but. Casquette pour Toulouse, le but toulousain. Il est marrant ce but parce que vraiment totale réussite pour le TFC. Belle combinaison sur corner venue de la droite, Van den Boomen qui cette fois ne centre pas malgré la qualité de son pied droit. Il trouve un relais, une passe en retrait pour Anthony Rouault qui met ce ballon sur la barre transversale, enfin ça frappe et dévié sur la barre transversale et elle revient sur le dos de Yevan Diouf qui met le ballon dans ses propres filets. But casquette contre Reims, 1-0 pour Toulouse.
C'est assez drôle.
Ouais, c'est plutôt marrant, ouais, non.
Ah, la réplique lilloise. La réplique lilloise avec ce petit centre de Zegrova et Jonathan David. C'est juste au-dessus.
Ah, ouais.
Début d'Anthony Lopez. On en reste à 2-0 après 23 minutes de jeu. Le petit centre d'Eden Zegrova. La tête de Jonathan David, c'est juste au-dessus de la barre transversale d'Anthony Lopez.
Alors, si vous nous rejoignez maintenant, RMC s'est adapté. RMC, c'est la radio du direct. Donc, place au 8e de Coupe de France. Vous êtes dans Rotten sans flamme avec Jérôme, avec Manu Petit. Je vous fais un point sur les scores. Lyon mène 2-0 face à Lille. Angers mène 1-0 face à Nantes. 1-0 pour Rodez à Auxerre, but donc de Toulouse qui mène 1-0 face à Reims, 0-0 entre le Paris FC et Annecy, 0-0 entre Vierzon et Grenoble. Vierzon qui a quand même, pour un club amateur, une pelouse bien meilleure qu'à Charletti pour Paris FC.
Elle est synthétique, hein.
Ah bah c'est pour ça qu'elle est bien meilleure.
Ouais, c'est pour ça. Bah, bien vu Jean-Louis.
Bon, en tout cas, c'est quand même plus agréable pour jouer.
Non mais, tu sais, c'est toujours pareil. Et je veux bien que Timothée nous parlait du nombre de matchs qui s'est déroulé dernièrement à Charletti. Mais même si ça appartient à la ville de Paris, le président du Paris Football Club, mais comment il peut accepter que son équipe, ses joueurs jouent sur une pelouse comme ça? Il faut refaire la pelouse, il faut investir les cocos.
Ils ont des ambitions pour monter,
ça. Donc ils veulent monter avec une pelouse catastrophique. Déjà que le contexte à Charletti
est particulier.
C'est particulier, plus que particulier pour jouer un match de football. Quand même, c'est indigne, c'est une faute professionnelle.
Ça me rappelle les terrains que j'avais quand j'étais encore en club amateur, quand j'avais une dizaine d'années.
Alors, mais c'est
et encore.
C'est dégueulasse.
Et encore dans les clubs amateurs, mais, il est bien meilleur.
Mais j'imagine les joueurs quand ils s'apprêtent à fouler la pelouse, ils disent mais c'est quoi ce terrain?
Ah ouais, non,
c'est incroyable.
Non, c'est une honte.
Bon, donc il y a 0-0 sur ce match, hein, évidemment. Ouais. Timothée Mémon, ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas bougé, simplement vous signalez que Jérôme mettait en avant le président du PFC, mais que c'est une concession totalement à la mairie de Paris. Le PFC ne peut pas prendre la décision lui seul de changer la pelouse. Il faut demander ça parce que c'est un équipement de la mairie de Paris qui est loué simplement par le PFC. Alors effectivement, le président.
Mais si tu loues un truc et que c'est pourri,
faire du lobbying pour. Non.
Mais Timothée, je pars du principe que si tu as ton président, le club qui occupe ce stade la plupart du temps, alors il n'y a pas que le Paris FC, on est d'accord, il y a les féminines du Paris Saint-Germain aussi. Mais n'empêche que s'il décide, lui, de vouloir changer, comment la mairie pourrait mettre son veto, étant donné que tu améliores quelque chose qui est pourri?
J'entends cela, ce que je te dis, c'est que c'est l'administration qui est ainsi faite.
Ouais, ouais.
Bon, 0-0 sur ce match, on va pas y rester non plus deux heures, hein, il se passe rien, la pelouse est pourrie. Jérémy Donzé, Lyon-Lille.
Oui, après 25 minutes de jeu, 2-0 donc, ce score pour à l'avantage de l'Olympique Lyonnais, et le premier carton jaune dans cette partie pour un Lillois ou pour un Lyonnais. C'est compliqué, Johan Le Penant est resté au sol, il me semble que c'est pour un Lyonnais, mais il y a Johan Le Penant qui est resté au sol là-bas le long de la ligne de touche. Toujours est-il que les Lyonnais ont déjà fait le break par l'intermédiaire de Ryan Cherki à la 8e, l'Alexandre Lacazette à la 21e, Lacazette opportuniste pour récupérer cette passe latérale d'André Gomes devant le jeune Lenny Yoro, 17 ans seulement, bien malheureux encore ce soir, on en parlait, fautif samedi à Rennes avant que Lille renverse la situation et s'impose 3-1 au Roizen Park. Lille cette fois menée 2-0 sur la pelouse du Groupama Stadium, cette faute de Bradley Barcola, c'est lui qui a reçu le premier avertissement de cette partie, l'attaquant de 20 ans qui a inscrit son premier but en Ligue 1 samedi soir du côté de 3, cette victoire 3-1 des Lyonnais qui restent sur 4 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Ça va un petit peu mieux pour les hommes de Laurent Blanc, même si il faut relativiser évidemment avec les adversaires affrontés, que ce soit Chambéry, Troyes, Brest ou encore l'AC Ajaccio. Le coup franc sur le côté droit pour Rémi Cabella après 26 minutes de jeu, donc toujours ce score de 2-0 pour l'Olympique Lyonnais face à Lille. Rémi Cabella au deuxième, troisième même poteau, ça va sortir, c'est sauvé très légèrement par Bafoté Diakité. 27 minutes de jeu donc au Groupama Stadium, 2-0 pour Lyon.
Toulouse-Reims, Nicolas Paul Orsi.
1-0 pour Toulouse et cette contre-attaque éclair de Abouklal. Il y a un 3 contre 2 à jouer, c'est plutôt bien fait avec Dalinga qui la laisse passer dans le dos. Ah, elle est un peu dans le dos justement, cette balle de Fares Chaibi qui n'a pas pu se l'emmener. 1-0 pour Toulouse, je vous rappelle le scénario, mais but casquette de Yevan Diouf, le gardien rémois contre son camp. Alors il est pour rien le pauvre, mais la frappe déviée de Stein Spiering sur la barre qui rebondit sur le talon.
Oh, pénalty à Lyon. Pénalty à Lyon sur ce corner, cette faute de Malo Gusto, un tirage de maillot. Bon, pénalty pour Lille après ce score, on le rappelle, de 2-0 donc pour Lyon, l'occasion de réduire l'écart pour les Lillois. Benoît Millot qui indique le point de pénalty, la contestation des joueurs lyonnais, ça va relancer peut-être cette rencontre, alors que sur ce corner d'Eden Zegrova, Malo Gusto qui aurait retenu Lenny Yoro devant la ligne des 6 mètres, et Benoît Millot sous les contestations des Lillois qui a indiqué très rapidement le point de pénalty. Ce sont les Lyonnais qui contestent désormais, on voit ça, alors qu'il y a d'abord Benjamin André qui s'effondre. Il y a ensuite un petit peu plus loin, 2-3 mètres plus loin, ce duel entre Malo Gusto. Tirage de maillot de Malo Gusto sur Lenny Yoro. Lenny Yoro fautif sur le deuxième but lyonnais qui obtient cette fois ce pénalty. C'est Jonathan David qui a pris.
Il n'y a pas la barre en Coupe de France.
C'est ça. Exactement. Là, c'est bien arbitré. Il y a un tirage de maillot qui est flagrant, même s'il y a un duel devant entre Tolisso et.
Bravo, monsieur Millot.
Et Benjamin André.
Ouais, monsieur Millot, il est top.
C'est Jonathan David qui va se présenter du coup face à Anthony Lopez. Jonathan David, bien malheureux au mois d'octobre. Lors du match aller en championnat, il avait heurté la barre d'Anthony Lopez. Cette fois, il se présente sur pénalty. Jonathan David, le contre-pied parfait, ça fait 2-1 donc pour Lyon-Lille. Réduit l'écart après 27 minutes de jeu. Ce tirage de maillot de Malo Gusto sur Lenny Yoro. Et donc, ça relance le suspense et l'intérêt de cette rencontre. 2-1 donc pour Lyon face à Lille.
2-1 pour Lyon face à Lille. 1-0 pour Angers face à Nantes. 1-0 pour Toulouse face à Reims. 0-0 entre le Paris FC et Annecy. Rodez, club de Ligue 2, mène 1-0 à Auxerre, Ligue 1. Et puis la surprise, ça tient pour l'instant. Vierzon, dernier club amateur, club de N2, est à 0-0 face à Grenoble Ligue 2. Suite de ces rencontres dans une seconde sur RMC dans Rotten sans flamme. Rotten sans flamme exceptionnel autour de la Coupe de France. RMC.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On finit la première heure d'un Roten sans flamme exceptionnel. Et oui, on n'est pas comme d'habitude à faire nos débats, notre fait entrer l'accusé, le moment de Julien Cazard qui va intervenir dans une dizaine de minutes maintenant. C'est parce qu'il y a le multiplex Coupe de France et parce qu'il y a des buts. Donc on est avec Manu Petit, on est avec Jean-Louis Tour. Et oui, on est en train de... Et puis bien sûr, tous nos correspondants sur place, sur site. On est en train de vivre les huitièmes de finale, les premiers huitièmes de finale de la Coupe de France, Jean-Louis.
Ouais, Cazard enchaîné à la mi-temps de ses rencontres. Hein. Ça n'a pas bougé au niveau des buts. Est-ce que, messieurs, c'est chaud quelque part? Il y a une action importante ou on fait le tour de façon classique? On va faire le tour de façon classique.
Oui.
Lyon-Lille entre clubs de Ligue 1, Jérémy Donzé.
La 34e ici au Groupama Stadium et toujours ce score de 2-1 pour Lyon face à Lille. Il y aura un corner à suivre pour les Lillois. Ce ballon mis en corner par Corentin Tolisso. Ça avait très bien débuté pour les Lyonnais avec des buts de Cherki et Lacazette. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu la réduction de l'écart de Jonathan David, une frappe également de Jonathan Bamba juste à côté des buts d'Anthony Lopez et puis la sortie sur blessure de Malo Gusto, fautif sur le pénalty accordé aux Lillois, touché à la cuisse. Attention à ce centre de Zegrova, c'est repoussé finalement par la défense lyonnaise, récupéré par Johan Le Penant et Ryan Cherki. On va pouvoir s'en sortir, se dégager, se donner un petit peu d'air côté lyonnais. 35 minutes de jeu, 2-1 donc pour Lyon face à Lille et c'est Castello Luqueba qui est entré en jeu. Tsinali Diomandé est passé au poste de latéral droit.
Toulouse-Reims, Nicolas Paul Orsi.
C'est un très bon match et attention avec Yevan Diouf qui est sorti n'importe comment. 2-0 pour Toulouse, 2-0 pour Toulouse sur ce bon ballon dans la profondeur. Ça y est, Zakaria Abouklal qui vient profiter de cette sortie totalement manquée de Yevan Diouf. Il se trouve, Abouklal peut l'éliminer facilement et marquer. C'est mérité pour les Toulousains qui dominaient largement depuis le but marqué. Tout est parti d'une attaque rémoise. En plus on relance très très vite avec Kjetil Haug qui va trouver son milieu de terrain. On saute rapidement une ligne pour trouver dans la profondeur Zakaria Abouklal qui n'est pas du tout en position de hors-jeu dans la défense rémoise. Et là Diouf il fait mais n'importe quoi, il est à 20 mètres hors de son but et il se fait transpercer par Abouklal. 2-0 pour le TFC,
2-0 pour Toulouse.
Il met un petit pont là pour l'éliminer. Là Diouf pas très inspiré.
La défense rémoise non plus, pas inspiré du tout sur le placement.
Ouais, c'est vrai. 2-0 donc pour Toulouse face à Reims. Angers Nantes, Pierre-Yves Leroux.
1-0 seulement là pour Angers qui a pris l'avantage au bout de 6 minutes. Il reste 10 minutes avant la pause, mais les statistiques sont claires. À la 6e minute, je vous disais, ouverture du score pour Angers et déjà 6 tirs. Il n'y en a pas eu un de plus depuis. En revanche, il y a eu 5 tirs nantais. Donc ils ont réagi, les Nantais, mais ils n'arrivent pas pour le moment à mettre vraiment en danger Paul Bernardoni.
Imagine, en 20 minutes, ils ont fait plus de tirs que depuis 6 mois.
Ouais, c'est fou. Non, mais ils ont fait un super début de match, les Angevins. Mais je pense qu'ils auraient dû continuer à appuyer un peu tel qu'ils le faisaient sur ces premières minutes pour essayer de marquer le deuxième. Il y avait des opportunités. Et là, ils sont un peu plus maintenant malmenés. Et en plus de ça, on a l'impression d'être à la Beaujoire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters canaris qui ont fait le déplacement. Ils sont 700 dans le parcage, mais il y a du jaune et du vert un peu partout. Donc, ils ont presque joué à la maison, les Nantais. 36e minute, 1-0 pour Angers.
Toi, ça fait
Lyon,
beaucoup.
Hein. Lyon-Lille. Jérémy.
Ouais, le coup franc n'a rien donné hein, pour les Lillois. La 37e toujours donc. Cet avantage pour les Lyonnais, 2-1. Cherki Lacazette et la réduction de l'écart. Jonathan David sur pénalty.
Ok, on va à Vierzon, le club de National 2, le dernier club amateur qualifié, reçoit Grenoble, Valentin Jamin.
Et ça tient pour le moment pour le dernier de son groupe de National 2, Vierzon 0-0 face à Grenoble après 37 minutes de jeu. Pape Messaba a eu un face-à-face tout à l'heure pour les Grenoblois qu'il a expédié au-dessus. Mais Vierzon, clairement, là, a décidé de défendre bloc bas. Ils ont gagné ce week-end en championnat. Il est resté sur 11 matchs sans victoire en N2 pour vous dire que c'est une saison qui est vraiment difficile pour Vierzon. Heureusement, il y a cette parenthèse Coupe de France, mais cette première saison de leur histoire en N2, c'est un peu une saison galère et pour le moment, ils subissent, mais ça tient, ça ne craque pas trop. 0-0, 38e.
On va à Auxerre Rodez, à l'Allée des Champs, Fred. Oui.
Surprise, hein.
Surprise, 37 minutes de jeu, effectivement. Rodez mène 1-0 avec le corner de Hein. C'est prolongé par Joubal. Ça va revenir au second poteau. Ils ont du mal, hein. Vraiment, les Ruthénois, ils sont malmenés dans cette rencontre. Mais ils mènent au score. Ils ont fait la différence après 3 minutes par Mendes avec une nouvelle tentative au Serrois sur le côté gauche. Sinayoko qui centre devant le but. Ça va revenir sur Sinayoko. Non, finalement, c'est dégagé bien difficilement. Les Auxerrois qui ont multiplié les occasions. Il y a eu une belle combinaison entre Nyang qui a centré fort vers Hein qui a tenté une talonnade, mais le portier de Rodez, Cibois, était bien concentré, a pu se coucher sur le ballon. Attention tout de même aux contre-attaques de Rodez et finalement ce sera un corner, non finalement un renvoi aux 5m50 pour Léon, le gardien auxerrois. Rodez mène 1-0, Mendes a marqué à la 3ème.
Manu, il y a un excellent coup franc pour Reims.
Excellent coup franc pour Reims. Et Manu, regarde ce que tu avais en tête.
Je sûrement pas. Excuse-moi Manu, mais je sûrement pas parce qu'il est vraiment bon, on était tout proche du pénalty, il y a 2-0 pour Toulouse, hein, 38 minutes de jeu, ce coup franc qui est à même pas 17 mètres hein, entre les 16-50 et les 17 mètres pour Arber Zenelli, le milieu de terrain de Reims, ils sont en difficulté les Rémois, on a vu Will Steele agacé sur le banc de touche, peut-être la fin de la série hein pour le Stade de Reims qui je vous le rappelle reste sur 14 matchs consécutifs sans défaite. C'est parti, Willy Delageau qui demande au mur Toulousain de se mettre à distance. Le pied droit d'Arber Zenelli dans le mur. 2-0 pour Toulouse.
Merci Nico. Manu, oui, tu voulais dire.
Oui, j'ai pas vu la compo d'Auxerre contre Rodez, mais est-ce que les recrues qui ont été assez actifs hein, pendant le mercato hivernal, est-ce qu'elles jouent? Parce que j'ai l'impression que il y a la tendance, c'est pas inversé quoi du côté d'Auxerre.
On a fait pas mal tourner. Il y a quelques joueurs de blessés, quelques joueurs absents, quelques blessés. Zedatka par exemple est blessé. Massengo est lui présent, mais il est sur le banc des remplaçants. Plus quelques joueurs qui sont comme ça, qui ont été ménagés pour cette rencontre. D'accord. C'est vrai qu'on a, même si Christophe Pelissier ne veut pas entendre parler de faire tourner, on a quand même laissé certains cadres ou recrues sur le banc ou au repos pour cette rencontre.
Ok, voilà Manu, t'as ta réponse. Paris FC Annecy, Timothée Mémon.
40e minute de jeu, 0-0 entre le Paris FC et Annecy dans un match franchement moyen à l'exception de deux hommes, un de part
comment
et d'autre.
Comment tu veux jouer au football, Timothée, sur
ce terrain détache du reste avec Paul Lannes. Ce sont deux joueurs axiaux là où il y a à peu près de la pelouse. Paul Lannes d'un côté côté PFC qui essaye d'emmener son équipe vers la cage adverse, et puis de l'autre côté c'est Alexis Bossetti qui a probablement marqué le plus beau but de sa carrière. C'était le week-end dernier à Geoffroy Guichard, un chef d'œuvre, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui depuis le début de cette rencontre est très remuant et propose énormément côté annécien.
Merci 0-0. Timothée, 0-0. Donc on revient dans une seconde pour la fin de ces premières mi-temps et le Casar enchaîné, le rendez-vous quotidien dans Rotten sans flamme avec Julien Casar. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h,
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.